Suivez Éco d'ici, Éco d'ailleurs avec la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.
Le grand invité de l'économie RFI, Jeune Afrique, Bruno Faure.
Bonjour à tous, bienvenue ici à Abidjan. Nous sommes comme l'an dernier à l'hôtel Sofitel Ivoire où se tient l'Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous du secteur privé en Afrique, des centaines de chefs d'entreprise et de décideurs économiques venus réfléchir au développement du continent et à l'émergence de champions pour lui faire franchir des étapes, grimper des marches supérieures. Un événement organisé par le groupe Jeune Afrique, notre partenaire chaque mois pour le grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique. Et comme je vous le disais le mois dernier, c'est un nouveau visage et une nouvelle voix qui sera désormais à mes côtés. Bonjour et bienvenue Aurélie Mbida.
Bonjour Bruno Faure et merci beaucoup. Très heureuse de rejoindre l'aventure.
Aurélie Mbida, chef du service économie de Jeune Afrique. Ensemble, nous recevons une personnalité d'envergure. Ici en Côte d'Ivoire, à la lisière de l'économie et de la politique, bonjour Adama Bittogo.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Adama Bittogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ancien secrétaire exécutif du RHDP, le parti actuellement au pouvoir, candidat aux élections locales, on va y revenir, fondateur de SNEDAI, un groupe présent dans de nombreuses activités, mais ce parcours très riche, et comme le veut notre tradition, c'est Aurélie Mbida qui va désormais en tracer les grandes lignes.
Adama Bittogo, en effet, vous êtes un entrepreneur dans l'âme, mais pas que. Hein, vous dirigiez une société dans l'import-export à l'époque où vous êtes entré dans le cercle de Alassane Ouattara au milieu des années 90, idem. Vous aviez un pied dans le négoce de cacao dans les années 2000, tout en étant conseiller politique. Une dynamique finalement qui ne vous a jamais quitté jusque très récemment. Pour vous, Adama Bittogo, le choix entre la casquette d'entrepreneur et puis celle de politique est-elle difficile à envisager ?
Merci, je voudrais d'abord vous exprimer toute ma gratitude et de m'offrir cette opportunité qui permet de parler de ma personne, de mon parcours, mais surtout de notre pays et de notre continent. C'est donc une mission que nous apprécions. Et je voudrais dire que, pour ma part, l'engagement citoyen est né depuis la fin de mes études, lorsque je suis revenu en Côte d'Ivoire, en 1989, donc en 1990, je découvre un homme, la personne du président Alassane Ouattara. Nous sommes, comme beaucoup d'étudiants, jeunes, gagné par la volonté d'un changement. Donc c'est cet engagement citoyen se traduit donc dans le monde aussi du business que j'embrasse, parce que pour moi, la création d'emplois est d'abord mon premier objectif, parce que j'aime passionnément mon pays. Par conséquent, j'aime passionnément mes compatriotes.
Donc il n'y a pas à choisir entre
partout où mon engagement se traduit par le bonheur de mes compatriotes, je réponds présent.
Effectivement, vous avez donc fondé le groupe SNEDAI en 2007 à la suite d'un bon tuyau, on dirait. Le ministre de l'Intérieur de l'époque vous informe que la Côte d'Ivoire souhaite adopter un passeport biométrique.
Vous êtes bien informé.
Une première en Afrique de l'Ouest. Ouais. Vous décidez alors de vous allier aux Belges ETS qui s'étaient positionnés sur un marché du fichier électoral. Et le partenariat s'avère gagnant. Après la Côte d'Ivoire, finalement, SNEDAI propose ses solutions technologiques au Mali, à la Gambie, au Togo. Voilà, point de suspension. Aujourd'hui, SNEDAI, que vous ne dirigez plus depuis juin 2022 et votre accession à la présidence de l'Assemblée nationale, est un groupe diversifié. Outre les technologies de l'information et de la communication, on retrouve l'énergie, le transport, l'immobilier, les travaux publics. Des succès, donc, à commencer par le nombre d'employés dans le groupe que vous avez fondé, près d'un millier, et la variété des contrats remportés, identification biométrique, programme immobilier, village des athlètes pour les Jeux de la francophonie, mais aussi il y a eu des échecs, des difficultés qui ont jalonné votre parcours. On pense notamment au sujet de Diamnia Dio au Sénégal et la liquidation de la filiale SNEDAI Mayelis BTP.
C'est comme dans le sport, hein, y a des réussites et des échecs. On peut être bon jour et moins bon le lendemain. En quoi votre expérience d'homme d'affaires peut vous servir aujourd'hui en politique ? Dans la négociation ? négocier, négocier, toujours négocier ?
Tout à fait. D'abord, je suis un homme de dialogue. Je crois en l'écoute. J'ai une capacité d'écoute. Et naturellement que dans le monde du business, on n'ouvre pas tous les fronts à la fois. Lorsque vous alliez à une négociation, le plus important, c'est le résultat. Donc, lorsqu'il faut esquisser pour arriver au résultat, il faut esquisser. Donc, c'est une... Autant en politique, nous devons défendre les intérêts d'une chapelle à laquelle on appartient, autant dans le monde du business, c'est une obligation de résultat. Donc, c'est vrai que dans la politique, il y a cette obligation de résultat, mais il y a les lourdeurs politiques, il y a d'autres composantes qui parfois s'imposent à vous. Alors que dans le monde du business, vous êtes le maître de votre jeu et c'est à vous de définir quelle est la démarche qui vous permet d'atteindre l'objectif.
La vie publique sans les chapelles, un vrai défi. On va parler d'économie, de politique, de Côte d'Ivoire dans le monde et bien sûr du grand événement qui attend votre pays. La Coupe d'Afrique des Nations de football, ce sera au tout début de 2024. Adama Big Togo, grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, entretien à retrouver sur nos différents supports, dès aujourd'hui sur le site internet de Jeune Afrique, à l'audio, sur l'application podcast de RFI Pure Radio et en vidéo dans son intégralité. Sur notre chaîne YouTube, entretien à partager, à commenter sur nos réseaux sociaux et par exemple sur notre page Facebook RFI Eco, RFI ECO. Bonne émission à toutes et à tous.
Eco d'ici, Eco d'ailleurs.
Sur RFI.
Adama Big Togo, nous sommes donc à l'hôtel Ivoire d'Abidjan pour l'Africa CEO Forum. C'est le rendez-vous du secteur privé en Afrique. Comment vous ressentez son évolution ? Il y a déjà des champions, il y a déjà de grandes réussites, mais aussi beaucoup d'entreprises dans l'ombre qui sont en mal de financement ou de compétences, ou même des deux.
On peut noter qu'il y a une évolution ces 10 dernières, 20 dernières années en Afrique. Mais de mon point de vue, la promotion du renforcement des champions nationaux, lorsque je parle en particulier de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique de l'Ouest que je connais, nous impose de revisiter le code de l'investissement. Moi, je crois au partenariat. Aucun pays ne peut se développer en se repliant sur lui-même. Donc, c'est tout à fait normal que l'Afrique, qui est un continent jeune du fait donc de l'avènement des indépendances qui est récent, jeune du fait de l'importation de la technologie, mais en même temps, c'est une opportunité parce que les pays d'Europe, les pays d'Amérique sont à la recherche de continents jeunes et l'Afrique, par la jeunesse de sa population, est une opportunité. Mais pour cela, il faut revisiter le code de l'investissement. Donc pour moi, la promotion, le renforcement de la promotion des champions nationaux passe par l'insertion dans la concession, passe par le système du co-investissement et passe par le système de la co-gestion.
Donc ça, ce sont vos idées.
Ça, ce sont mes idées.
Il y a quand même la réalité du moment.
Oui, justement.
Un climat des affaires qui n'est pas toujours au beau fixe, selon les régions.
Pas en Côte d'Ivoire. Si on parle des régions, effectivement, l'Afrique, dans certains pays traversés parfois par les remises en cause institutionnelles, donc effectivement, parce que l'investissement a besoin d'un encadrement. Et l'encadrement passe par la sécurité juridique, passe par la sécurité physique, passe par le respect des engagements et passe par la bonne santé financière.
Vous diriez qu'en Côte d'Ivoire, c'est parfaitement respecté à tous les étages.
En Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, nous sommes un des rares pays, nonobstant les secousses que nous avons vécues, à respecter toutes les conventions qui ont été signées entre l'État et les entreprises sur les 40 dernières années. C'est très important de dire, parce que vous savez qu'il y a eu un renversement institutionnel en 1999, il y a eu la guerre en 2010. Mais tout ceci n'a pas remis en cause les conventions existantes. Donc, on peut noter la sécurité juridique des conventions qui sont signées avec l'État de Côte d'Ivoire. Deuxièmement, au niveau donc de l'économie, depuis 2010, la Côte d'Ivoire connaît une croissance de 7%.
On va y revenir.
Non, mais ceci rentre justement dans l'environnement de l'investissement, parce que le pays il devient attractif lorsque la confiance est établie entre les institutions financières internationales et le pays.
Et justement, vous parliez de jeunesse tout à l'heure et vous parliez de code d'investissement, etc. Mais d'après vous, De quelles ressources, en fait, dispose le tissu économique africain, ivoirien, si on veut commencer par la Côte d'Ivoire, pour faire face à ce contexte d'instabilité évoqué par Bruno à l'instant?
L'Afrique dispose de ressources naturelles. Je veux dire, l'Afrique produit du gaz. Quand une structure vient pour produire de l'énergie en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, ou enfin dans n'importe quel pays, dès lors que l'État met à disposition ses ressources naturelles, que le promoteur doit en faire l'exploitation et donc doit en faire la production, il est bon qu'une société nationale participe à l'exploitation pour pouvoir bénéficier du transfert de compétences au bout d'un certain nombre d'années. On ne fera pas de grands champions nationaux tant qu'on ne permettra pas à nos nationaux de participer et d'être présents dans les projets structurants et stratégiques. Tous les dossiers portuaires, énergétiques, les projets d'infrastructures, de routes. Il faut absolument que les champions africains y soient présents. Vous prenez aujourd'hui, l'Afrique bénéficie d'une opportunité, c'est la croissance exponentielle de l'Internet, mais ce n'est que du service. Nous ne sommes qu'au stade du service. Nous n'avons pas créé la recherche. On n'a pas créé assez de start-up dans le domaine de la recherche technologique au niveau donc de l'informatique. Quand on a une population composée de 115-117% de jeunes, on n'a pas le choix que de renforcer l'économie numérique.
Et justement, est-ce qu'il est, c'est plus simple ou c'est plus compliqué aujourd'hui de créer ce que vous appelez les futurs champions nationaux, donc une société africaine qui a des capitaux africains, qu'il y a 15 ans par exemple, quand vous-même vous avez créé une...
Aujourd'hui, d'abord, j'apprécie, il y a une nouvelle génération qui est beaucoup plus agressive, qui bénéficie de plus d'opportunités que la génération ancienne, nous on est la génération intermédiaire, du fait de ce que le monde entier est devenu un village planétaire. Donc il existe plusieurs plateformes qui permettent donc aux jeunes de pouvoir donc communiquer avec le Japon, Singapour, les États-Unis, ce que nous, nous n'en avons pas eu. Mais nous avons su, par la suite, nous organiser pour parcourir le monde entier. Moi, je n'ai pas attendu d'être à un certain niveau de fonction pour parcourir le monde entier, pour aller chercher des marchés au niveau donc de l'Afrique. L'une des faiblesses de notre sous-région et de l'Afrique, ce sont les barrières. On parle de la ZLECAF, on parle de l'espace économique, ce ne sont que des discours. À la vérité, j'en parle tout le temps avec le secteur privé de la Côte d'Ivoire, les tarifs douaniers empêchent que les sociétés puissent donc bénéficier, tirer profit de l'espace économique qui en soi est un élément important. Parce que qu'est-ce qui fonde la force des champions européens et américains? Mais c'est le marché intérieur. Et nos marchés intérieurs sont réduits parce que nous avons des États qui ne sont pas encore fournis en hommes et en capacité de pouvoir d'achat. C'est pour cela que l'espace UBOA, l'espace CDAO, quand vous prenez ces deux espaces, mais c'est suffisant pour que nous ayons des champions nationaux. Mais là encore, nous sommes confrontés à ces obstacles qui empêchent que l'opérateur ivoirien puisse aller s'installer au Nigeria, au Sénégal, au Mali et de fonctionner librement. Et alors que nous réussissons ici en Côte d'Ivoire.
Ça, c'est pour les tarifs douaniers. Il y a un autre obstacle qui est mis en avant par le patronat, c'est la fiscalité, qui est souvent jugée écrasante. D'ailleurs, le patronat est venu vous voir pour vous demander des lois pro-entreprise.
Absolument.
Ça veut dire qu'on ne va pas assez loin aujourd'hui?
Absolument. J'ai reçu le patronat. Il y a deux choses. Ce que nous avons répondu au patronat, c'est que le gouvernement est donc en train d'élargir l'assiette. Parce que 80% de notre économie est tenue par l'informel. Et tout le problème, c'est qu'on n'a pas de moyens d'aller capter de la fiscalité dans le secteur informel. Vous avez une masse importante d'argent qui circule sans passer par le circuit bancaire, sans qu'il y ait de facture qui puisse permettre donc aux impôts de tracer. Donc on a un problème de traçabilité. Comment y arriver? C'est en cela que je reviens encore sur la digitalisation. Aujourd'hui, vous prenez... À 300 km d'Abidjan, vous allez dans un petit village, tous les jeunes ont un portable. Toutes les femmes ont un petit portable. Donc il faut peut-être que nous repensions, que les impôts peut-être soient expliqués dans les langues vernaculaires, que les gens comprennent qu'il faut pouvoir payer un peu d'impôts pour avoir un peu de route et de l'eau dans le village. Donc c'est tout ceci qu'il faut pouvoir expliquer pour que le patronat, une partie des entreprises importantes, ne ressente pas tout le poids de la fiscalité. C'est parce que l'assiette n'est pas élargie qu'au niveau du patronat, on a le sentiment qu'il y a une pression fiscale. Mais quand on fait une analyse comparative des taux, la Côte d'Ivoire n'a pas forcément le taux le plus élevé au niveau fiscal.
Alors, l'avenir économique de la Côte d'Ivoire, oui. Votre président en a parlé très récemment dans un oui. discours à la Nation. Vous étiez d'ailleurs juste derrière lui.
Oui.
On va écouter Alassane Ouattara un extrait de son discours.
Ma vision est claire. Il s'agit de bâtir une Côte d'Ivoire prospère, développée et moderne. Une Côte d'Ivoire solidaire. Pour que l'État puisse continuer ses actions en faveur des Ivoiriens et de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, il nous faut encore créer plus de richesses et d'emplois. C'est à cela que nous nous attelons sans relâche, avec l'appui du secteur privé et de nos partenaires, pour la transformation structurelle de notre économie et l'avènement d'un Ivoirien nouveau autour des valeurs de paix, de patriotisme, de civisme et de travail.
Insatisfait, mais de lourds défis pour la Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, à commencer par celui de l'inflation. Comment lutter efficacement contre l'inflation, contre la hausse des prix, non pas seulement à court terme, mais sur le long terme?
Nous avons un contexte mondial qui nous est défavorable au niveau de l'inflation. La guerre russo-ukrainienne, qui a donc entraîné l'inflation, il y a eu l'impact Covid. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire s'en sort bien aujourd'hui en étant une inflation qui varie entre 4, 6 et 6 %, contrairement à des inflations dans certains pays. Bon, je ne vais pas citer des pays voisins, mais nous apparaissons comme un peu l'élève qui a su donc contenir l'inflation. Ce qu'il faut aussi pour combattre l'inflation, c'est de développer la production interne, la substitution des produits. Nous avons ici le maïs, le manioc. Il faut donc, c'est une politique à long terme. Mais en même temps aussi, ce qui a la flambée est née de la crise énergétique. Donc nous avons une croissance des coûts au plan énergétique. Nous avons donc une croissance des coûts au niveau des engrais. Mais il y a une résilience au plan économique qui nous permet donc de juguler cette inflation.
Aurélie. Justement, vous parliez tout à l'heure du statut de bon élève de la Côte d'Ivoire en 10 ans. Enfin, depuis 2012, en tout cas, le PIB ivoirien a augmenté de 7,4% en moyenne, une croissance qui est exemplaire donc, pour les pays de la zone UEMOA. Pourtant, votre pays a eu recours dernièrement à un prêt, une enveloppe du FMI de 3,5 milliards de dollars, qui est un beau montant. Est-ce qu'il est impossible, selon vous, de faire autrement?
Vous savez que les banques ne prêtent qu'aux meilleurs entrepreneurs.
Aux riches,
aux meilleurs entrepreneurs. Donc c'est la qualité plutôt de notre économie qui a fondé donc l'octroi de ce prêt.
Le FMI prête aussi à des pays qui ont moins bien réussi que la Côte d'Ivoire.
Je suis d'accord. Non, là c'est un plan de sauvetage. Il faut donc dissocier. Voilà, c'est pas la même chose. Nous sortons d'une situation inflationniste, situation Covid 2020, 2021, 2022. La Côte d'Ivoire n'a pas bénéficié de soutien, parce qu'on considérait à l'époque que notre croissance. Mais il faut dire que 2020, nous avons connu une croissance à pratiquement 2%, 1%. Nous avons dû subventionner au niveau de l'énergie l'année dernière. Nous avons dû accompagner certaines sociétés relativement à l'impact Covid. Donc, le plan qui a été présenté par le gouvernement de Côte d'Ivoire FMI, d'abord, c'est historique au niveau de la sous-région. Jamais un pays n'a bénéficié d'un tel montant. Mais c'est un prêt assorti de certaines conditions, mais qui montre en même temps la bonne santé financière de la Côte d'Ivoire, la bonne tenue de ses économies. Il y a donc des exigences, il y a des conditions qu'il faudra respecter. Mais c'est aussi un soulagement parce que vous savez que le coût financier à l'international aujourd'hui, sur le marché financier, il est très élevé. Les eurobonds sont passés pratiquement de 4% à 7% en fonction donc de l'effet de maturité. Donc je veux dire, le prêt ne se fait pas que sur les fondamentaux macroéconomiques que de la Côte d'Ivoire, mais c'est surtout sur les fondamentaux et le contexte dans lequel la Côte d'Ivoire se situe et le rôle que joue la Côte d'Ivoire au sein de la sous-région.
Parmi les conditions qui font partie du contrat avec le FMI, il y a la nécessité d'investir. notamment dans le domaine agricole, notamment dans celui du cacao, qui est un domaine absolument essentiel pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faut changer là aujourd'hui dans ce secteur qui est sans cesse traversé par des crises, par des tensions, y compris avec les multinationales et étrangères?
Il faut aller à la transformation. Le président de la République a fixé le cap. Il faut que nous puissions atteindre 50% de transformation de notre cacao. C'est aujourd'hui la seule solution. Un, pour améliorer le revenu des agriculteurs. Deux, pour améliorer la valeur ajoutée de notre cacao. Trois, pour pouvoir transformer le maximum de cacao produit. Et en point quatre, mettre en place une politique plus forte du reboisement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est là et ce qui revient…
– ailleurs dans le monde.
– Exactement. Il y a la déforestation qui devient donc une préoccupation et donc qui apparaît maintenant comme une exigence et une condition dans la production du cacao. Il y a donc la mécanisation du cacao qui est souhaitée par l'Union européenne et par les Américains à l'effet de réduire donc le nombre de jeunes qui travaillent donc dans les plantations. Donc autant de défis quand on sait que l'agriculture représente près de 20% du PIB dans notre économie.
Et sur la question des prix qui est absolument
oui, mais si nous engageons
centrale aussi. Comment est-ce qu'il faut fixer des prix?
Non, mais si nous engageons dans la transformation du cacao à près de 50%, c'est clair que nos agriculteurs vont connaître une amélioration du prix. Là, le prix, il est fixé par le gouvernement, mais parce qu'au plan international, même s'il y a des chaînes de valeur qui font que le prix est un peu plus élevé à la sortie, mais avec la transformation, il y aura forcément une économie d'échelle, et cette économie d'échelle sera profitable donc à nos paysans, à nos agriculteurs.
Un autre combat qui impose aussi à la population dans plusieurs pays, sont les tarifs des télécommunications, de l'Internet mobile en particulier, qui est appliqué par les opérateurs. On a assisté dernièrement à une fronde des consommateurs sur les réseaux sociaux avec la naissance du hashtag mode avion en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, en RDC. C'est vraiment impossible d'avoir des services de qualité en Afrique subsaharienne à un prix que peuvent vraiment supporter les consommateurs.
C'est une question que nous avons évoquée, même au niveau de l'Assemblée. C'est une préoccupation, mais qui trouve son explication au niveau donc du caractère exponentiel de la consommation de l'Internet. Je ne pense pas que dans les projections des opérateurs qu'ils s'y attendaient à une telle croissance. La croissance a donc ses exigences, c'est l'investissement. Et l'investissement dans le secteur est très élevé. Ce que nous disons, parce qu'en matière d'économie aussi, lorsque vous avez le volume, théoriquement, l'effet volume doit l'emporter sur l'effet prix. Je pense que l'élément essentiel, qui est donc la préoccupation des opérateurs, c'est que beaucoup de nos compatriotes utilisent WhatsApp. Alors que WhatsApp ne rapporte pas assez aux opérateurs. Donc lorsqu'ils ont fait l'analyse comparative des consommations, ils se sont rendus compte que sur les années précédentes, il y avait plus de consommation sur l'appel normal, et qu'aujourd'hui, il y a une consommation plus forte, donc les gains sont réduits pour un investissement plus important. Et je crois qu'il faut absolument que nos autorités de régulation et les opérateurs s'asseyent et qu'ils aient une projection plus lointaine en tenant compte donc de l'évolution démographique et l'évolution exponentielle de l'Internet au niveau donc de l'Afrique.
Adam Abid Togo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et candidat aux prochaines élections municipales. Ayo Pougon est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique ici à Abidjan, où se tient l'Africa CEO Forum. Ces élections, on en parle tout de suite.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Parlons effectivement de ce défi qui vous attend à Yopougon, une commune très importante à l'ouest d'Abidjan, plus d'1 500 000 habitants. Ces élections locales, comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, début septembre, vous serez opposé notamment à Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président Gbagbo. Ses priorités économiques dévoilées au début de cette campagne de son parti, le PPACI.
La circonscription de Yopougon est une circonscription qu'il faut rebâtir totalement. On va refaire les voiries, refaire la route, récurer les caniveaux, rebâtir donc le foncier et envisager la construction de marchés, de centres de sport, et puis évidemment revisiter tout ce qui est formation professionnelle pour la jeunesse, avec à la fin donc l'emploi, main-d'œuvre peu qualifiée, mais essentielle même pour l'économie locale.
Adama Bictogo, il faut rebâtir totalement Yopougon, changer beaucoup de choses, comme le dit Michel Gbagbo, vous pouvez être que d'accord ?
Je voudrais dire que lorsque j'ai été désigné en novembre, j'ai donc tout de suite parcouru Yopougon. Et mes différentes visites ont fini d'achever donc la vision que j'avais sur Yopougon. D'abord, c'est une commune qui traduit l'expression plurielle de la Côte d'Ivoire. Il y a une diversité de communautés vivant à Yopougon. Il y a effectivement de vrais problèmes à Yopougon. D'ailleurs, vous avez dû voir ces derniers jours, il y a le problème d'eau, d'acheminement d'eau, c'est vrai, il y a des problèmes de voirie, il y a des problèmes donc de couverture d'énergie, mais ce sont des problèmes qui sont survenus du fait donc du déficit du plan d'urbanisation. Voilà. Parce que vous arrivez, vous avez vraiment des quartiers qui sont habités, sans permis de construire, il y a des maisons construites sur des caniveaux. Donc, il y a vraiment un travail à refaire donc, au niveau de l'urbanisation. Ce qui est extraordinaire à Yopougon, d'abord, c'est une commune de plus d'un million et demi d'habitants. C'est une commune qui a été traversée par les grandes crises politiques. Donc, je perçois Yopougon comme étant la force motrice du renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est une vraie locomotive. C'est pour cela que ma candidature à Yopougon obéit, pour moi, à une candidature qui doit épouser l'expression plurielle, qui va au-delà des partis politiques. Et pour cela, il y a une jeunesse très forte. Sur 1,5 million, vous avez près d'un million de jeunes. Cette jeunesse a besoin d'être formée. C'est pour ça qu'il faut effectivement renforcer la formation professionnelle. À l'entame de mes propos, je parlais de l'employabilité. Moi, j'ai visité la Chine, le Brésil, beaucoup de pays au monde. Je crois que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin que la majorité de ces jeunes soient orientés vers la formation professionnelle. Et Yopougon peut être donc un bon projet pilote pour ces jeunes. Yopougon, quand vous prenez tous les artistes, aussi bien au niveau footballistique, Drogba vient de Yopougon, vous prenez au niveau des artistes, 95% des artistes viennent de Yopougon. Donc, il faut qu'il y ait une vraie politique culturelle à Yopougon, qu'il y ait un palais de la culture, qu'il y ait un palais de sport. Yopougon doit être le miroir de l'expression plurielle et de la richesse de la diversité ethnique, religieuse de la Côte d'Ivoire.
Aurélie Mbida de Jeune Afrique.
Vous attendez un résultat serré dans cette commune ?
Il y aura une élection, je respecte la compétition, j'aime la compétition, mais je pars avec cet avantage d'avoir plus d'expérience, d'avoir plus de capacité à pouvoir donc permettre aux populations de Yopougon de transformer leurs rêves en réalité, surtout pour les jeunes et les femmes.
On sent votre motivation, votre enthousiasme. Oui. Vous êtes député de la Côte d'Ivoire, qui est une zone très éloignée d'Abidjan.
Tout à fait, à Beauville.
Voilà, vous assumez votre position de parachuté, je mets des guillemets, à Yopougon.
Non, vous savez, je me sens bien partout en Côte d'Ivoire. Justement, ma candidature à Yopougon obéit au principe de la citoyenneté. Il faut que chaque Ivoirien puisse servir la Côte d'Ivoire où qu'il se trouve. Le plus important, c'est l'engagement citoyen. J'aime mon pays, j'aime passionnément tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Et partout où je pense que cette passion doit se traduire par la promotion de l'emploi des jeunes, doit se traduire par l'autonomisation des femmes, doit se traduire par la réduction de la pauvreté, doit se traduire par la mise en œuvre des politiques de santé, d'assainissement, d'eau, je serai présent. Et c'est pour cela que vous me mettiez à Yopougon, à Bobo, à Kumasi, à Korwa, à Boaké, à moi, je serai présent avec toujours le sentiment d'appartenir à l'espace pour lequel je suis candidat.
Adama Bictogo, certains de vos détracteurs vous accusent déjà d'organiser des fraudes. Qu'est-ce que vous répondez ?
Oh ben dis donc, vous savez, lorsqu'on a le sentiment que la défaite est déjà aux portes, on crie au loup, comme le bon voleur qui crie au loup. Moi, je suis, vous savez, je respecte beaucoup les populations et les électeurs. Parce que je partage avec eux leur douleur, je partage avec eux leur joie. Et ce qui peut-être perturbe mes adversaires, c'est donc ce don de soi pour la commune de Yopougon en particulier et pour l'ensemble des Ivoiriens. Je les invite donc à plutôt s'engager pour nos populations que de rester dans les petits calculs et de vouloir donc créer une perception qui n'en est pas une.
– Vous avez d'ailleurs appelé à des élections apaisées.
– Tout à fait. –
Comment vous séparez votre rôle de candidat désigné par le RHDP et celui de président de l'Assemblée nationale, qui est l'un des rôles les plus importants dans le pays? Comment vous séparez bien ces deux rôles tout en les menant en même temps ?–
C'est l'expérience qui m'y aide. Quand je suis à l'Assemblée, quand je dois porter les habits de l'Assemblée, je raisonne en termes d'institutions, et d'ailleurs, on le voit à travers mes missions, à travers les missions que je confie aux uns aux autres. Et lorsque je dois aller à Yopougon, je deviens le candidat. Donc lorsque je suis à Yopougon, mais je considère que même s'il y a une limite de démarcation, je m'adresse à toutes les communautés y vivant. Donc, par conséquent, mon discours est pratiquement le même que celui que je tiens en tant que président d'institution.
Justement sur ce travail parlementaire.
Ouais, sur ce travail parlementaire, vous avez été donc choisi par le président Ouattara pour présider l'Assemblée. Ça fait quasi tout juste un an, puisque ce sera le 7 juin, l'anniversaire de votre accession à ce poste. Comment jugez-vous le travail parlementaire? Comment dépasser aujourd'hui les clivages politiques dans un pays qui a déjà vécu beaucoup d'événements conflictuels, voire violents? Vous les évoquiez tout à l'heure.
Je voudrais d'abord, je profite de l'opportunité que vous m'offrez pour exprimer ma gratitude, ma reconnaissance au président Alassane Ouattara de m'avoir désigné, mais en même temps, je salue et remercie le président Henri Conan-Bédier et le président Laurent Gbagbo qui ont permis à leurs différents groupes parlementaires de voter pour moi. Et ceci a été historique, d'autant plus qu'il y a eu une déclaration de l'opposition invitant tous les députés à voter donc pour ma personne. Je crois que ce qui a prévalu, c'est la politique de concertation et d'écoute que j'ai instaurée à l'Assemblée. Quel que soit le sujet, même si après le vote va donc trancher, parce que nous sommes dans la démocratie, mais le fait d'avoir instauré le principe de la concertation, de l'écoute, a donc créé une ambiance, je dirais, de fraternité. Ceci ne nous amène pas à avoir une unicité de pensée. Les débats contradictoires demeurent, mais tout ceci se fait dans l'élégance, dans la courtoisie. C'est vrai que quand on regarde l'histoire de notre pays, on peut être surpris de me voir assis avec le président Dikaoué, le président Oula Hubert, mais quand j'arrivais à l'Assemblée, vous aviez raison, le clivage était net. Aujourd'hui, nous sommes une famille. Et je crois que l'Assemblée doit être donc la force motrice de ce renforcement de la cohésion. Notre pays en a besoin. Il faut que nous puissions dépasser tous les événements que nous avions vécus pour que les générations à venir puissent bénéficier et de notre expérience, mais surtout d'une stabilité plus forte.
– Les tensions, elles existent quand même encore. Il y a ce débat en ce moment sur l'inscription aux listes électorales d'un certain nombre de candidats. Comment vous appréhendez, au-delà des élections locales, cette présidentielle qui attend le pays en 2025? Est-ce que vous pensez que cet apaisement relatif va vraiment pouvoir être conservé jusque-là? On n'a pas encore l'identité des candidats, vous me direz.
Voilà. Ces élections locales qui interviennent à mi-parcours du mandat du président Alassane Ouattara sont des élections très importantes parce que c'est un enjeu qui va redéfinir la carte politique de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous, au RHDP, nous avons très vite fait de désigner nos candidats et de mettre dans la balance vraiment ceux que nous pensons les meilleurs parce que nous voulons gagner ces élections et nous voulons les gagner partout, de telle sorte que notre victoire soit une approbation de la politique menée par le président Alassane Ouattara depuis 12 ans.
Pour préparer le terrain pour 2025, c'est ça que vous voulez dire?
Tout à fait. Je veux dire que nous sommes à mi-mandat. Si les Ivoiriens se prononcent de façon très favorable pour notre parti, c'est une expression volontaire d'une continuité de celui-là même qui aujourd'hui mène le bateau ivoire.
Et pour ce qui est du choix du candidat du RHDP, donc ça se décidera à l'issue de ces premières échéances.
C'est même pas un sujet à l'ordre du jour chez nous. Nous, on a un président. Et le président de la République est le président de notre parti. Mmh. Et pour ma part, le président de la République est ma boussole. Je travaille à ses côtés depuis plus de 30 ans. Et il a toujours été ma boussole et le catalyseur de mes ambitions. Je suis constant dans cette vision. Mais pour l'heure, l'objectif à court terme, c'est dans 2 mois, le RHDP doit pouvoir gagner ses élections locales.
Mais à titre personnel, donc, vous n'avez pas d'ambition nationale affichée dans l'immédiat. Après, vous n'écartez rien pour l'avenir, qui peut être long.
Pourquoi vous voulez parler à ma place? Je vous dis...
J'essaye d'analyser ce que vous
dites. Je suis président de l'Assemblée nationale. Après avoir été désigné par le président Alassane Ouattara pour une mission, pour l'heure, je fais mon job. Donc je veux dire, j'ai encore 2 ans et demi pour terminer ma mission. Le président de la République a considéré, en tant que président de parti, que j'étais la personne la mieux indiquée pour être candidat à Yopougon. Une autre mission. Je vais gagner à Yopougon et je reviendrai prendre ma nouvelle feuille de route après les élections locales auprès du président du parti. Voilà comment ça fonctionne et voilà comment je fonctionne.
Match après match, comme on dit
dans
le sport. Il est temps de refermer cette page politique ivoirienne dans cet entretien avec Adama Big Togo. Abordons donc à présent quelques questions internationales. Le Sénégal, d'abord, une situation, disons, compliquée depuis la condamnation d'Ousmane Sonko. Pas mal de troubles. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que grand voisin du Sénégal qui regarde forcément cette situation avec beaucoup d'attention?
Oui, je pense que tous les Ivoiriens, tous les Africains suivent en ce moment ce qui se passe au Sénégal. Je suis moi-même un peu attristé par ces quelques violences, le développement de la situation. Parce que j'aime le Sénégal, je connais le Sénégal, c'est vraiment, j'ai des liens de fraternité, mais je veux croire à cette capacité, à ce sens élevé de l'État, à la maturité politique des Sénégalais, pour que nous puissions arriver à une solution qui apaise. Il faut absolument que nous arrivions à l'apaisement, parce que le Sénégal, pendant des décennies, est apparu sur la scène internationale africaine comme le meilleur élève donc, de la mise en œuvre de la démocratie. Je veux donc souhaiter que le Sénégal puisse retrouver le calme qu'on connaît au Sénégal, l'apaisement.
Parce que c'est important pour la Côte d'Ivoire.
C'est important, pas que pour la Côte d'Ivoire, pour la sous-région. Vous saviez, quand la Côte d'Ivoire était en crise, le président Ouad, à l'époque, était pratiquement en Côte d'Ivoire tout le temps. D'abord, au plan économique, au niveau de l'UEMOA, le Sénégal et la Côte d'Ivoire représente 60% des flux financiers et de la masse monétaire. Donc si le Sénégal est touché par des troubles, naturellement que l'UEMOA va donc être traversé par des secousses. Déjà que nous avons des difficultés au Mali, au Burkina, si le Sénégal venait à être traversé par des secousses, la sous-région, en tout cas l'UEMOA, va en souffrir. Et donc il est bon aujourd'hui que ensemble, nous puissions vraiment trouver une solution d'apaisement.
Justement, le Burkina, Aurélie.
Oui, une des questions qui préoccupe ces temps-ci la région, c'est la menace terroriste, à relier sans doute d'ailleurs aux questions d'économie, de pauvreté. Vous avez récemment rencontré votre homologue burkinabé qui dit avoir de fortes attentes vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Que peut faire votre pays pour aider son voisin?
Déjà, il faut une collaboration franche entre nos états-majors d'armée. C'est très important. Il faut une collaboration franche entre les différents renseignements pour pouvoir maîtriser les mobilités et les migrations. Aussi, voudrais-je dire que la situation au Burkina est plus que préoccupante quand on sait combien de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire. Il y a une forte population burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Les relations historiques, culturelles qui lient les deux pays sont tellement fortes et entremêlées que la Côte d'Ivoire n'a pas de solution, n'a pas le choix que d'accompagner le Burkina dans la recherche des solutions. Mais pour cela, il faut aussi que la Côte d'Ivoire soit aidée par les autorités burkinabées. C'est vrai qu'il y a un problème d'insécurité. C'est vrai que pour lutter contre cette insécurité, le Burkina a besoin d'être accompagné par tous. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une visibilité dans l'action. Cette visibilité passe par la recherche de la normalité à venir. Nous avons un régime d'exception. Un régime d'exception ne peut pas bénéficier de l'accompagnement international.
Justement, la communauté internationale, la France, qui participe un peu moins activement en termes de présence militaire, la secrétaire d'État au développement, Chrysoula Zakharopoulou, est venue ici en Côte d'Ivoire au début du mois de mai pour inaugurer une académie internationale de lutte contre le terrorisme. On écoute quelques mots de la ministre.
Vous pouvez toujours compter sur l'engagement total et déterminé de la France dans ce projet. Vous savez très bien, nous sommes plus que jamais engagés aux côtés de nos partenaires africains dans la lutte contre le terrorisme.
La France aux côtés de la Côte d'Ivoire sur ce sujet, il y en a d'autres. Paris a besoin de soutien en ce moment dans la sous-région. Vous êtes prêt à l'aider ?
Oui, vous savez, moi je considère que le partenariat qu'on a avec la France est un partenariat comme tous les partenariats. Il y a des moments où il faut revisiter certaines conventions en tenant compte des contextes, parce qu'une convention ne vaut que par le contexte dans lequel il est mis en œuvre. Donc il y a des éléments endogènes et exogènes qui peuvent venir donc influencer, impacter une convention qui a été élaborée il y a une dizaine, vingtaine d'années. Mais ceci étant, pour nous, la France reste le premier partenaire. Je l'ai dit à mon homologue, de président de l'Assemblée du Burkina. Ayons la réflexion, certes, de vouloir revisiter vos conventions qui font de la relation avec la France, mais ne pensez pas que changer de partenaire règle forcément le problème. Là n'est pas la solution. La solution doit être contenue dans la rédaction de la convention. Qu'est-ce qui est attendu ? Quels sont les résultats attendus ? Et partir de ces résultats et dire, avec la France, voilà les résultats attendus, quelle est la démarche ? Quelle est l'obligation de moyens ? Et on rediscute.
Justement, en parlant de résultats attendus, mais sur un autre registre, à l'automne dernier, en déplacement à Paris, vous avez demandé la restitution des œuvres culturelles ivoiriennes issues de la période coloniale. C'est un combat qui est important pour vous ?
Oui. D'abord, j'avais été saisi par la ministre de la Culture lorsque je devais rencontrer Madame la Présidente, ma chère Yaël Pivet. Ce que nous avons observé, c'est que lorsque nous visitions les maisons de culture, nous avons noté qu'en dehors du tambour, il y avait encore des objets ivoiriens qui étaient détenus en France. La Côte d'Ivoire a une diversité culturelle, donc il est bon que ces arts que nous avons vus, qui retracent l'histoire, parce qu'en fait c'est ça, c'est que ces arts retracent l'histoire, et nous avons besoin de puiser dans l'histoire, dans notre passé, pour construire l'avenir, pour pouvoir à chaque fois apporter quelques aménagements à notre démarche. Et je crois que c'est une identité forte pour notre pays.
– Donc il faut que ça aille vite pour vous, là il faut…
Ce que nous avons demandé à l'Assemblée nationale de France dans la mise en œuvre de la loi, parce que pour pouvoir faire la restitution, il faut un projet de loi. Que ce projet de loi, comme ils l'ont fait pour le Bénin, puisse bénéficier, que ce soit un accord cadre, qui prenne en compte l'ensemble des pays africains, et que dans ce cadre-là, la Côte d'Ivoire puisse bénéficier de cet accord cadre pour faire rapatrier quelques arts qui sont encore au Quai Branly.
– Adama Big Togo, parmi les événements qui font l'histoire de l'Afrique et qui créent du lien, il y a la CAN de football. Il se trouve que dans quelques mois, elle sera de retour ici en Côte d'Ivoire. La dernière fois, c'était en 1984.
Tout à fait.
C'est le Cameroun qui avait gagné. Est-ce que le pays est prêt ? Est-ce que les stades sont prêts ? Le ministre des Sports, Paulin Dagneau, a inauguré il y a quelques semaines le stade de Bouaké. On l'écoute.
Le stade de la paix, qui a une capacité de 40 000 places, est aujourd'hui l'un des joyaux sur le plan des stades en Afrique. Le ministère des Sports donc se réjouit de la marche que nous sommes en train d'effectuer pour que, après Bouaké, nous puissions installer le décor de Korogo et enfin de San Pedro, pour que, conformément aux décisions, aux recommandations et aux analyses de la CAF, nous puissions être en homologation de l'ensemble des infrastructures sportives et d'hébergement de la CAN 2023 pour le mois de juin 2023.
juin 2023. C'est maintenant, hein. Corogo et San Pedro seront prêts pour la nouvelle mission d'inspection de la CAF. San Pedro, d'ailleurs, construit par Vasnedaï. C'est pas le sujet.
C'est pas le sujet, mais je pourrais répondre. Il a tout à fait raison. Boaké, donc, la réception provisoire a été faite. Corogo, la réception provisoire de San Pedro va se faire le 15 juin. Je crois que pour la CAN, au niveau des infrastructures, la Côte d'Ivoire a vraiment, va proposer des infrastructures de très haut niveau. Je n'ai pas d'inquiétude en ce qui concerne donc, les réceptions qui vont être faites. Ce qu'il faut aujourd'hui, au-delà donc, des infrastructures, c'est créer une force psychologique de la victoire. Et pour cela, il faut engager tous les Ivoiriens, quelles que soient les obédiences politiques, religieuses. Et sur ce plan, l'Assemblée nationale va jouer un rôle très important.
Quelle retombée économique attendez-vous de la CAN?
Je pense que pour l'heure, je n'ai pas échangé avec le ministre des Finances ou le budget, mais ce que nous pouvons noter, c'est que la CAN se joue sur un mois. Avant les retombées économiques, ce sont ces infrastructures qui vont rester en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avait besoin de refaire, de reconstruire, de construire des infrastructures sportives. Le deuxième élément positif, c'est qu'avec ces infrastructures, nous allons avoir une révolution au niveau donc du sport. Ceci va amener beaucoup de jeunes à s'intéresser au sport. Nos clubs vont pouvoir bénéficier d'infrastructures, donc c'est important. Et au plan touristique, je pense que nos hôtels vont faire le plein de leurs hôtels pendant cette période de la CAN et ça va être un moment de fête. Je pense qu'on aura l'une des plus belles CAN d'Afrique.
Surtout si les éléphants réussissent de belles
performances. Non, les éléphants vont réussir. C'est un pari aujourd'hui.
Et ne pas laisser le Sénégal gagner toutes les compétitions.
Non. Je crois que le Sénégal, ils ont fait leur dernière victoire. J'aime bien le Sénégal, mais c'est leur dernière victoire. La Côte d'Ivoire va gagner cette Coupe d'Afrique en 2024. J'en suis convaincu, même si aujourd'hui nous sommes 8e, 9e au plan africain, mais je peux vous dire que, vous savez, une Coupe c'est le mental, une Coupe c'est l'organisation, une Coupe c'est un engagement national. Et le peuple de Côte d'Ivoire sera derrière les éléphants. Et je reste convaincu que le drapeau ivoirien, l'hymne national ivoirien va retentir dans la tête de nos joueurs. Et ils sauront que la victoire de 2024 viendra renforcer la stabilité, la cohésion sociale et la ferveur tant souhaitée par tous les Ivoiriens.
Coup de sifflet final. Merci infiniment à Adama Bittogo d'avoir accepté notre invitation ici à l'hôtel Sofitel Ivoire d'Abidjan.
Merci.
Merci Aurélie.
Merci Bruno.
Les meilleurs passages de cet entretien dès maintenant sur le site de Jeune Afrique. Merci à Bertrand Éclair pour la réalisation audio, à Robin Cusneau pour la vidéo avec les équipes d'Hémisphère particulièrement efficaces. Merci à Sandrine Strara, Marianne Poissonnier, Ludovic Duneau. Un salut à Julien Clémenceau qui nous a aidé aussi à préparer cet entretien que vous retrouvez sur nos applis, dont l'appli Pure Radio et en vidéo sur YouTube. À la semaine prochaine sur RFI. Restez connectés et surtout, portez-vous bien.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, vous a été proposé par la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.